Donc, faut-il être sceptique pour être tolérant ? Alors ce soir, j'aimerais interroger une notion à la mode. D'ailleurs, suite aux attentats de janvier, le texte de Voltaire traité sur la tolérance a été réédité et a fait un succès de librairie. Texte écrit à l'occasion de l'affaire Callas. Texte pas facile à lire, en fait. Je pense que c'est parce que c'est Voltaire l'auteur que ça suscite un tel engouement, mais c'est un texte qui est quand même assez difficile à lire sans le contexte. Et donc on se rend compte que la tolérance est une notion à la mode, mais le problème c'est que c'est une notion qui reste assez molle et assez confuse dans nos esprits. Dans nos esprits, la tolérance est associée à une vague ouverture d'esprit, et en gros est ouvert d'esprit celui dont les convictions ne sont pas trop affirmées. Celui, comme on dit aujourd'hui, qui est modéré. Vous voyez, on demande aux musulmans d'être modérés, aux chrétiens d'être modérés, l'opposition modérée radicale, on y reviendra. Mais ce qu'il y a derrière cette modération, c'est l'idée que les convictions seraient des prisons. Une phrase de Nietzsche, qui enferme les individus dans des habitudes intellectuelles qu'ils ne questionnent plus, qu'ils ne savent pas forcément justifier, et que la conviction porte en elle une inexorable violence. Pour deux raisons. Parce que celui qui est convaincu prétend détenir la vérité. Et il prend l'idée de vérité au sérieux. Et si vous prenez l'idée de vérité au sérieux, vous êtes bien obligé d'avouer qu'il y a une frontière étanche entre la vérité et l'erreur. Et qu'on ne peut pas soutenir des choses différentes et avoir raison en même temps. Donc, forcément, si vous prenez l'idée de vérité au sérieux, vous devez avouer que l'un a raison et l'autre tort. Du coup, deuxième difficulté, si vous prenez l'idée de vérité au sérieux, ça veut dire que vous abordez le dialogue, le convaincu aborde le dialogue dans une sorte de, dans une situation d'asymétrie. L'un a raison, l'autre a tort. L'enjeu du dialogue, eh bien, c'est d'éclairer la lanterne de l'autre. Par l'argumentation, dans le meilleur des cas, par la contrainte, dans le pire des cas. De le convertir, par exemple, on reviendra sur les guerres de religion. Donc, du coup, le dialogue consacre une sorte de déséquilibre, et c'est ça qui est insupportable. On accepte qu'il y ait déséquilibre dans des situations comme l'éducation, le maître sait, l'élève ignore, bon, là, il y a une hiérarchie, mais on n'accepte pas qu'il y ait déséquilibre dans des situations où, normalement, nous sommes des partenaires dans la recherche de la vérité. Donc, l'idée de laquelle j'aimerais partir et que j'aimerais discuter, c'est que ce qui menace la tolérance à première vue, c'est peut-être bien l'idée de vérité, l'horizon de la vérité. Et j'aimerais partir d'une phrase du philosophe Alain, Émile Chartier, hein, je ne l'ai pas mis dans les extraits, parce qu'elle est très courte. Alain définissait la tolérance ainsi. Qu'est-ce que la tolérance ? Un genre de sagesse qui surmonte le fanatisme, ce redoutable amour de la vérité. Un genre de sagesse qui surmonte le fanatisme, ce redoutable amour de la vérité. Vous voyez, le fanatisme serait un redoutable amour de la vérité. Alain nous dit ça, hein, dans ses propos. Qu'est-ce que la tolérance ? Un genre de sagesse qui surmonte le fanatisme, ce redoutable amour de la vérité. Du coup, la question que j'aimerais me poser ce soir, eh bien, c'est la suivante. Pour être tolérant, faudrait-il cesser d'aimer la vérité ? Faudrait-il cesser d'aimer le vrai ? Faudrait-il être sceptique ? Alors, peut-être qu'il faut que je définisse le scepticisme, qui est un terme philosophique. Le sceptique, dans le langage courant, qui recoupe assez bien finalement le concept philosophique, le sceptique, c'est celui qui considère non pas que le vrai n'existe pas, mais qu'il n'est pas capable de l'atteindre. Donc le scepticisme était une école philosophique qu'on trouve en Grèce antique, hein, dont le fondateur était un certain Pyrrhon d'Élis. Mais des sceptiques, on en retrouve à toutes les époques. On en retrouve notamment au XVIe siècle, Montaigne par exemple. Il y a des retours comme ça du scepticisme à différentes époques. Donc le scepticisme, définition vous voyez, de laquelle on pourrait partir, c'est, ça n'est pas la négation, l'idée de vérité. Le sceptique ne pense pas que la vérité n'existe pas, mais il pense, pour tout un tas de raisons, parce que notre raison est finie, parce que nos sens sont trompeurs, qu'on ne peut pas atteindre la vérité. Et donc, tout se passe comme si celui justement qui était capable d'une telle humilité, eh bien, était forcément tolérant. Si je ne suis pas capable d'atteindre la vérité, eh bien, je dois accepter que ce que je pense vrai, que ce qui est vrai pour moi n'est peut-être pas vrai en soi. Et que l'autre a peut-être aussi des raisons d'avoir raison. Voyez ? Donc le scepticisme, à première vue, qui renonce à l'idée de vérité, serait plus tolérant, parce qu'il laisserait de la place aux convictions de l'autre. Et il ne chercherait pas, du coup, à convaincre à tout prix l'autre. Et plus modestement, il dirait que ce qu'il prend pour vrai, c'est une vérité, c'est ma vérité, comme on dit, et que l'autre, avec son histoire, avec sa culture, eh bien, a sûrement d'autres raisons de prendre, de tenir pour vrai ce qu'il tient pour vrai. Donc voilà, est-ce que le sceptique est celui qui, voyez, qui a cette humilité intellectuelle qui laisse de la place aux convictions des autres? Et est-ce qu'il est le modèle même de la tolérance? Eh bien, c'est ça que j'aimerais discuter. Et dans cette introduction, j'aimerais vous montrer que cette position-là comporte, à mon avis, deux pièges, deux risques. Et dans tout mon propos, j'aimerais la discuter. Premièrement, elle suppose une sorte de contorsion intellectuelle impraticable. C'est-à-dire que peut-on croire à moitié? Est-ce que je peux dire, je suis chrétien ou musulman, c'est ma vérité, c'est vrai pour moi, mais c'est peut-être pas vrai en soi? Vous voyez, c'est une sorte, un numéro d'équilibriste assez risqué. Est-ce que je peux croire à moitié? Est-ce que je peux croire relativement? Est-ce que je peux d'un côté être absolument convaincu, aller à l'église, etc. Et puis de l'autre côté me dire, mais non, en fait, c'est peut-être pas vrai en soi ce que je pratique. Est-ce que, c'est la première difficulté, le concept de vérité supporte de tels accommodements? Est-ce qu'on peut tous avoir raison en même temps? Est-ce que, comme le dit Michel Polnareff, nous irons tous au paradis? Voyez, première difficulté. Et la deuxième difficulté, sur laquelle j'aimerais bien insister, c'est que je ne suis pas sûre que cette tolérance-là désamorce vraiment la violence. Je ne suis pas sûre qu'elle permette le dialogue. Parce que le sceptique, comme le dogmatique, mais pour d'autres raisons, recule devant la discussion. Pourquoi ? Le dogmatique, il recule devant la discussion, ou alors la discussion est en sorte de coup de force parce qu'il a raison, l'autre a tort. Mais le sceptique recule aussi devant la discussion, puisque pourquoi débattre d'une vérité qui est seulement subjective? Pourquoi débattre d'une vérité qui est seulement ma vérité? D'ailleurs, ça devient terriblement sérieux de débattre, parce qu'il s'agit de débattre de moi, en fait. Et donc le risque est grand, ce que j'aimerais vous montrer ce soir, que le fanatisme, et je crois que la situation actuelle l'illustre bien, je vous montrerai comment, le risque est grand que le fanatisme en fait se fraye un nouveau chemin à travers ce scepticisme. Voilà. Donc mon propos est organisé en trois moments, vraiment très scolairement. J'aimerais dans un premier temps vous présenter le modèle de la tolérance tel qu'il a été pensé au XVIIe siècle, suite aux guerres de religion, et puis tel qu'il a été pensé aussi au XVIIIe siècle avec Voltaire, mais il y a une vraie continuité. Et effectivement, ce modèle-là de la tolérance passe par une relativisation du concept de vérité, par un affaiblissement du concept de vérité. On verra comment. Dans un deuxième moment, bah, j'aimerais vous montrer les difficultés que ce concept de tolérance fait surgir et vous proposer une autre manière de penser la tolérance dans un dernier moment. Donc, tout d'abord, je vous restitue un petit peu le contexte philosophique de ce concept. Concept qui naît en philosophie au XVIIe siècle sous la plume d'un Anglais, John Locke, dans ses lettres sur la tolérance. Et John Locke écrit au XVIIe siècle, mais il est très imprégné, bien sûr, des guerres de religion du XVIe siècle qui ont déchiré l'Europe et dont ils font vraiment mesurer la profondeur. C'est-à-dire que ces guerres de religion n'ont pas opposé seulement des pays, n'ont pas opposé des groupes distincts, mais ont déchiré des familles, des voisins. C'est-à-dire que vraiment, cette crise s'est immiscée à l'intérieur même de ce qui était le plus uni. Et l'ennemi n'était pas le barbare, l'étranger, le lointain, mais le voisin. D'ailleurs, l'affaire Calas dont parle Voltaire en témoigne, puisque au sein d'une même famille, on accuse un père protestant d'avoir tué son fils catholique, ce qui n'était pas le cas en réalité. Donc, cette foi qui avait cimenté la société, qui faisait consensus, tout d'un coup ne fait plus consensus. Alors, la première solution un peu rapide qui a été trouvée, c'est de dire, eh bien, on va repousser la diversité religieuse aux frontières. C'est-à-dire, tel prince, telle religion, tel pays, telle religion, vous n'êtes pas content là où vous êtes, bah vous allez à côté. D'accord ? Mais ce modèle-là n'a pas fonctionné longtemps, parce qu'il ne faisait que déplacer le problème. Et il a fallu trouver une solution au problème suivant, tout simple. Bah, comment faire vivre ensemble des gens qui ne partagent pas les mêmes convictions ? Le fameux « vivre ensemble » devenait problématique. Sur quelle base est-ce que je peux accepter de vivre avec quelqu'un dont je ne partage pas les idées et même dont je réprouve les idées. C'est ça la tolérance. C'est accepter ce que je réprouve. C'est un mouvement, on y reviendra, un peu curieux. Accepter ce que je réprouve, voire même ce que je déteste. Alors, la solution imaginée par John Locke, mais pas seulement, on va voir par Voltaire, par Kant aussi, a consisté à affaiblir de trois manières le concept de vérité, à relativiser notre prétention au vrai. Si je dois accepter et accueillir les convictions de l'autre qui ne sont pas les miennes, c'est pour trois raisons. Parce que, un, comme j'ai dit dans mon introduction, la vérité est inaccessible. Parce que, deux, la vérité n'est pas décisive, c'est peut-être pas si important que ça, le vrai. Il y a peut-être d'autres choses plus importantes. La paix, le vivre ensemble, comme on dit, l'ordre public, l'éthique. La vérité n'est peut-être pas une question si sérieuse que ça. Et puis, parce que la vérité est peut-être plurielle et subjective. Donc la vérité est inaccessible. Effectivement, remarquons que la tolérance ne s'applique qu'à certains domaines. On n'a pas à être tolérant, par exemple, en mathématiques. On n'a pas à tolérer les erreurs. En science, la tolérance n'a aucune pertinence. C'est ce que dit André Comte-Sponville dans un petit article sur la tolérance. Quand la vérité est connue avec certitude, la tolérance est sans objet. D'accord ? La science repose sur le débat, la polémique, la critique sans merci, l'examen. Il n'y a pas à être tolérant en science. Pourquoi ? Parce que justement, la science progresse grâce à la reconnaissance des erreurs. Il ne faut pas tolérer l'erreur. Donc la tolérance, si on est effectivement honnête intellectuellement, elle n'a de sens que là où la vérité se dérobe, c'est-à-dire dans le domaine de la morale, des mœurs. Vous voyez, le vrai, on le voit en gros, hein, comme dit Aristote. On ne le voit pas précisément. et le goût, par exemple, la religion, etc. Donc, la tolérance est d'abord l'aveu d'une faiblesse. Et c'est ce que dit Voltaire dans l'article « Tolérance » de l'encyclopédie. Ce n'est pas le texte que je vous ai photocopié, on lira l'extrait tout de suite après. « Qu'est-ce que la tolérance ? C'est l'apanage de l'humanité. Nous sommes pétris de faiblesses et d'erreurs. Pardonnons-nous réciproquement nos sottises. » Pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature. Voilà. Nous devons nous tolérer tous mutuellement parce que nous sommes tous faibles, inconséquents, sujets à la mutabilité, à l'erreur. Un roseau couché par le vent dans la fange dira-t-il au voisin couché dans un sens contraire, rampe à ma façon misérable, où je présenterai requête pour qu'on t'arrache et qu'on te brûle. Voilà. Finalement, c'est une vertu un peu mélancolique, la tolérance. Qu'on est contraint de développer faute de mieux. On ne sait pas où est la vérité, donc on est bien obligé d'accepter les erreurs des autres et puis nos propres erreurs. Pierre Bayle, un Français, parlait d'un droit de la conscience errante. La tolérance, c'est le droit que la conscience a d'errer, de se tromper. Et il disait, comme Dieu accepte nos erreurs, nous devons accepter les erreurs des autres. Alors, sans la condescendance de Dieu, parce que Dieu, lui, connaît la vérité. Mais nous, ça se trouve, c'est nous qui sommes dans l'erreur et l'autre dans la vérité. C'est-à-dire que nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas sortir de la mêlée et prétendre connaître le vrai. Nous partageons cette faiblesse avec l'autre. Voilà, donc cette vertu, elle relève de l'humilité, voire de l'humiliation intellectuelle. Là où nous ne pouvons pas savoir, nous sommes contraints de tolérer. Et justement, le fanatique, c'est celui qui pense pouvoir établir de manière parfaitement sûre ses positions rationnelles. C'est celui qui pense avoir un accès direct au vrai et qui n'a pas le sens justement de ses capacités. C'est celui qui... on va lire l'extrait numéro 1 du traité sur la tolérance de Voltaire. Voltaire le compare à une fourmi. Voici ce qu'il dit. « Il me semble que je pourrais étonner au moins l'orgueilleuse opiniâtreté d'un imam ou d'un talapoint si je leur parlais à peu près ainsi. Ce petit globe qui n'est qu'un point roule dans l'espace ainsi que tant d'autres globes. Nous sommes perdus dans cette immensité. » L'homme haut d'environ 5 pieds et assurément peu de choses dans la création. Un de ces êtres imperceptibles dit à quelques-uns de ses voisins dans l'Arabie ou dans la Cafrerie « Écoutez-moi, car le Dieu de tous ces mondes m'a éclairé. Il y a 900 millions de petites fourmis comme nous sur Terre, mais il n'y a que ma fourmilière qui soit chère à Dieu. Toutes les autres lui sont en horreur de toute éternité. Elle sera seule heureuse et toutes les autres seront éternellement infortunées. Il m'arrêterait alors et me demanderait « Quel est le fou qui a dit cette sottise ?» Je serais obligée de leur répondre « C'est vous-même. » Voyez ? Donc, le fanatique, c'est celui perdu dans l'infinité de l'espace, dans la multitude des croyances. Imagine que sa croyance est la seule qui plaît à Dieu. Voilà, donc... Finalement, la tolérance, c'est la vertu qui m'invite à relativiser ma propre croyance parce que je dois reconnaître que je n'ai pas accès au vrai. Donc, première idée. Deuxième idée, ce qui fonde la tolérance, c'est aussi le fait de dépassionner le débat. La vérité n'est peut-être pas la valeur suprême. Ce qui rend la tolérance possible, c'est le fait de reconnaître que le plan spéculatif n'est peut-être pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est sûrement la morale qui unit les hommes. Parce que Dieu, remarque Locke et Bayle, nous a certes demandé de chercher la vérité, mais il nous a aussi demandé, avec encore plus d'insistance, de former des sociétés paisibles où nous vivons en bonne harmonie les uns avec les autres. D'ailleurs, Locke le remarque dès les premières lignes de ses lettres sur la tolérance. Il nous dit « Un chrétien a beau se vanter de l'orthodoxie de sa foi, s'il n'est pas charitable, sa vérité ne vaut rien. » Donc, l'amitié serait supérieure à la vérité. Et justement, l'intolérant, je reviens au fanatique, c'est celui peut-être qui n'a pas compris cela, c'est-à-dire celui qui fait de la recherche de la vérité un enjeu exclusif, une obsession. Et c'est pour ça qu'il ne supporte pas l'erreur, parce que à travers l'erreur, il est question de vie ou de mort, de salut, de damnation, parce que les convictions religieuses sont les plus décisives, là en l'occurrence dans les contextes des guerres de religion. Donc on doit se battre pour elles. Mais voyez, si on dépassionne le débat, si on remet la vérité à sa place, c'est peut-être pas ça le plus important. Donc il faut peut-être sacrifier parfois la vérité à l'amitié entre les hommes. Et enfin, dernière idée qui permet de bâtir, de fonder ce concept de tolérance, c'est d'affaiblir l'idée de vérité en pensant un double statut, en imaginant deux types de vérité. Et c'est ce que fait, c'est tout le travail de John Locke dans ses lettres sur la tolérance. Dans son traité sur la tolérance et dans ses lettres, il se demande, alors sa question est politique, il se demande jusqu'où l'État doit s'immiscer dans les questions. Est-ce qu'il doit s'intéresser aux questions métaphysiques, religieuses? Non, dit-il. Parce qu'il y a deux types d'opinions. Il y a des opinions qui intéressent l'ordre public, dit John Locke, c'est-à-dire le rapport des hommes entre eux. Et puis, il y a les opinions qui me concernent seulement moi-même. Et ces opinions-là sont sans intérêt pour l'État. L'État, elles ne sont pas à la portée de l'État. Du coup, ce que fait Locke, c'est qu'il privatise quelque part les opinions religieuses, les croyances. Il fait de la croyance une affaire personnelle, privée, qui n'a rien à faire dans le débat public. Ce que je crois vrai est vrai pour moi, et je n'ai pas à le penser vrai pour les autres. Et donc petit à petit s'installe l'idée qu'il y aurait deux régimes de vérité. Il y a le régime de la science, où là, la vérité est universelle. Et il y a le régime de la croyance, où la vérité repose sur une sorte de décision subjective. C'est vrai, parce que, coup de force, j'ai décidé que c'était vrai. C'est vrai parce que je crois que c'est vrai. Et ça a beau être absurde, d'ailleurs Tertullien le dira, je crois parce que c'est absurde, ça peut être absurde, rationnellement, c'est quand même vrai. Donc, vous voyez, s'installe l'idée qu'il y aurait deux régimes de vérité. Alors, ça, c'est, je ne vais pas alourdir mon propos, mais c'est ce qu'on trouve vraiment dans l'œuvre de Emmanuel Kant au XVIIIe siècle. Il y a d'un côté la science qui peut se prévaloir de l'expérience et qui peut proposer une connaissance légitime. Et la métaphysique, elle, ne peut pas prétendre connaître, elle peut seulement penser les objets comme Dieu, l'âme, le monde, etc. Et donc, s'installe l'idée que la croyance est un choix éthique et que je ne peux pas expliquer mes croyances rationnellement, mais je m'explique par elles. C'est-à-dire qu'en retour, mes croyances me fondent. Donc d'un côté, on a des vérités scientifiques qu'on peut comprendre et des vérités de foi auquel on adhère existentiellement, subjectivement, mais qu'on ne peut pas nécessairement comprendre. Et donc, petit à petit, les convictions ne font plus partie du domaine de la rationalité, du domaine de ce dont on peut discuter, de ce dont on peut finalement échanger. Alors, c'est ce qui explique très bien le texte suivant. Alors, j'avoue, ici... que j'ai emprunté énormément d'idées à ce petit essai d'Adrien Candiar, En finir avec la tolérance. Adrien Candiar est un jeune dominicain qui est au couvent du Caire actuellement, qui est très... qui s'est spécialisé dans l'islam et qui d'ailleurs était un fervent admirateur de Pierre Clavery, évêque d'Oran, qui a été assassiné je ne sais plus en quelle année, un peu après les moines de Tibérine, et qui a beaucoup œuvré pour le dialogue entre christianisme et islam. Voilà, Adrien Candiar, je crois qu'il a... donc il a 34 ans, il est vraiment tout jeune, et il a écrit ce texte « En finir avec la tolérance, différences religieuses et rêves andalous ». Alors c'est un historien à l'origine, agrégé ulmien, qui parle beaucoup du rêve andalou, de l'Espagne médiévale musulmane, où les trois monothéismes ont, selon un mythe qu'ils discutent, ont justement coexisté en paix, selon lui. Enfin bon, ça c'est discutable. Et donc, voici ce qu'il écrit dans son texte, pour illustrer ce que je viens de dire. Donc texte numéro 2, « La foi propose des vérités à croire, la raison des vérités à comprendre, à chacun son domaine. Cette fois, les prétentions religieuses au monopole de la vérité étaient définitivement désarmées. Les vérités religieuses sont souveraines, mais seulement dans leur domaine, domaine subjectif, certes important dans la vie quotidienne, mais dévalué pour le débat intellectuel. Le débat scientifique et philosophique n'a plus à craindre leur incursion inquisitoriale. Elles sont ailleurs, dans leur monde à elles, des vérités d'un autre ordre. On a bien le droit d'être convaincu, et même pour Kant, on le doit, mais on doit également savoir que ce n'est pas la vérité, c'est une vérité, c'est ma vérité, comme on dit depuis dès lors, avec ce possessif qui n'aurait pas manqué de surprendre les anciens. Les Grecs notamment. Le potentiel violent d'une telle vérité n'est pas tout à fait anéanti, mais il est incomparablement diminué. Qui se battrait pour une vérité qu'il sait n'être pas objective, mais un simple fondement nécessaire de la moralité de son existence? De plus, si c'est ma foi qui lui donne ce statut de vérité, c'est vrai parce que j'y crois. Pourquoi la foi d'un autre ne donnerait-elle pas le même statut à une vérité tout à fait contraire? Le principe de non-contradiction ne vaut que pour les vérités rationnelles. Qui oblige les vérités religieuses à la cohérence? Voilà le point soulevé par Locke résolu. Nous n'allons pas nous battre pour un différent religieux si nous pouvons avoir tous les deux raisons en même temps, malgré nos croyances opposées et même inconciliables. La dispute devient aberrante. La Trinité peut donner lieu à d'émouvants sermons. Ceux qui partagent cette croyance peuvent, s'ils le souhaitent, s'en entretenir à loisir. Le chrétien pourra même témoigner de sa foi en ce Dieu 3 et 1 et raconter à qui veut l'entendre combien cela compte pour lui et transforme sa vie. Mais débattre de la vérité de ce dogme, cela serait aussi inutile que de discuter de la face cachée de la lune, des martiens ou de la quatrième dimension. Voilà. Une fois que les vérités, les croyances, eh bien, sont rentrées dans ce mode faible de la vérité, il devient absolument inutile d'en débattre. Et d'ailleurs, on peut se demander si il n'est pas possible, finalement, de légitimer toutes les croyances. Croire à tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est nous qui fondons ces croyances. Donc voilà, toutes les vérités contraires pourraient coexister. La vérité est plurielle. Bon, on en est là à peu près aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on pense. Chacun sa vérité. Et c'est la logique qui est intolérante. Même c'est la logique qui voudrait qu'il y ait d'un côté la vérité et d'autre part l'erreur, qui est intolérante. Voilà, donc on accepte les vérités de l'autre, mais remarquez bien la démarche, à condition qu'elles soient, comme on dit aujourd'hui, démonétisées. C'est-à-dire que ce soit des vérités faibles. C'est sa vérité. Voilà. Donc négligeable. C'est parce que les vérités de l'autre, et aussi mes vérités, deviennent négligeables, de simples partis pris subjectifs, qu'elles deviennent acceptables. Donc vous voyez, le mouvement, ça, c'est vraiment le suivant. Et chez tous les auteurs, que ce soit Voltaire, Locke, Kant, Bayle, on va retrouver cette idée que c'est en désarmant la vérité, comme dit très bien Adrien Candiar, eh bien, qu'on rend la tolérance possible. Alors, avant de formuler quelques critiques, ne confondons pas tolérance et indifférence, et puis tolérance et respect. La psychologie de la tolérance est vraiment très subtile. La tolérance, c'est pas une molle acceptation de ce que l'autre pense. C'est pas une indifférence, parce que si c'est indifférent, alors il n'y a rien à tolérer. La tolérance n'a de sens que là où il y aurait potentiellement de l'intolérable. Et d'ailleurs, si on revient à l'étymologie du mot tolérance, tolérer, c'est, si vous allez voir dans le dictionnaire, c'est admettre à contre-cœur la présence de quelqu'un. Bon, allez, je le tolère. Donc, c'est supporter quelqu'un. C'est accepter ce que fondamentalement on réprouve, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça suppose que là où il y a tolérance, il y a au préalable conviction. Vous réprouvez ce que vous acceptez. Donc la tolérance, c'est absolument pas une vertu facile, intuitive. Elle suppose un effort. Il faut aller contre soi. Hein, tolérer ce qu'on réprouve, admettre à contre-cœur. Donc la tolérance n'est pas l'indifférence. Mais la tolérance ne va pas jusqu'au respect. Et c'est là toute la subtilité. Quand vous tolérez les convictions de l'autre, vous ne les respectez pourtant pas. Parce que respecter les convictions de l'autre, ça supposerait que vous leur reconnaissiez une dignité, une valeur. Ce que vous respectez, c'est l'autre, mais ça n'est pas ce qu'il dit. Ce que vous respectez, c'est le fait qu'il soit un être rationnel, libre, une personne, mais vous ne respectez pas ce qu'il pense. Le respect implique... C'est un concept philosophique fort, implique la reconnaissance d'une dignité, implique une estime, une admiration. Et d'ailleurs, vous respectez la personne qu'il est parce que vous estimez la liberté qu'il est, la conscience qu'il est. Mais vous ne pouvez pas dire que vous respectez ce qu'il pense. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation assez spéciale où vous respectez l'autre, d'un côté, mais vous méprisez ce qu'il pense ou ce qu'il dit. Vous le respectez en dépit même de ce qu'il affirme. Et parfois, la contradiction est telle que vous le respectez tout en niant ce qui lui est le plus cher. Prenons le cas de la religion, par exemple. Ce qui lui est le plus intime, précieux. Donc, vous voyez, c'est un mouvement psychologique un peu particulier que cette tolérance. Et donc, du coup, la question que j'aimerais me poser dans ce deuxième temps, c'est que vaut ce respect pour ma personne qui est mépris pour mes idées ? Vous voyez, c'est la question que se pose Adrien de Candiar dans son livre. Est-ce que c'est pas un peu le respect qu'on réserve aux enfants ou aux imbéciles ? Vous voyez, allez, il est bien gentil, il croit à la Trinité comme mon gamin croit au Père Noël. Vous voyez, je lui passe ce caprice. Je lui passe cette faiblesse. Il y a quelque chose d'un peu suspect dans ce respect. Hein, respect pour ma personne, mais mépris pour mes idées. Et d'autre part, il n'est pas sûr que cette tolérance-là rende la discussion possible. Parce que si les vérités, les croyances, les convictions sont seulement subjectives, alors pourquoi en discuter ? Alors de quoi discuter ? On n'a plus de terrain commun. Donc ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que cette tolérance-là, et je crois que la conjoncture actuelle l'illustre, nourrit une certaine forme de fanatisme. Pour une première raison, c'est que l'asymétrie, le déséquilibre que je pointais au début de mon propos se réinstalle. L'asymétrie qu'il y avait entre celui qui sait et celui qui ignore se réinstalle parce qu'il y a celui qui suit la saine logique, par exemple l'athée, celui qui laisse son imagination dériver, le croyant. L'athée considère très souvent que la croyance est une sorte de simple superstition. Donc ce silence méprisant de moi-même ou de l'autre vis-à-vis de nos convictions respectives n'est peut-être pas si tolérant que ça. deuxième point, cette tolérance à quelque chose de condescendant. Il ne faut pas oublier que la tolérance consacre toujours un rapport de domination, un rapport de pouvoir. Par exemple, l'hétérosexuel a l'impression qu'il est hyper tolérant lorsqu'il tolère l'homosexuel. Mais ce qu'il semble lui accorder comme une grâce, comme un don, en fait est un dû. Il n'a pas à le tolérer, c'est un droit parfait d'être homosexuel. Donc, vous voyez, on fait passer pour une grâce, pour une générosité, ce qui est en réalité, dans l'ordre des choses, ce qui est un droit. Et c'est exactement ce qui s'est passé au XVIe siècle, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'édit de Nantes, par exemple, qui a mis fin provisoirement aux guerres de religion. Pourquoi ? Parce que l'édit de Nantes tolère les protestants, mais alors avec tout un tas de conditions. Vous pouvez construire un temple, mais de telle proportion, à telle distance du centre des centres-villes. Et on voit bien que cette tolérance-là consacre un rapport de domination. C'est celui qui est en position de majorité qui tolère la minorité. Vous voyez, c'est le catholique qui tolère le protestant. Ça n'a aucun sens de dire que c'est le protestant au XVIe siècle qui tolère le catholique. Ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, on voit bien que cette tolérance consacre un rapport de pouvoir, parce que vous pouvez décider, c'est ce que fera d'ailleurs Louis XIV, de ne plus tolérer et révoquer l'édit de Nantes. Donc, méfions-nous de l'asymétrie, vous voyez, qui peut se réinstaller à travers le concept de tolérance. D'autre part... l'attitude psychologique dans laquelle nous place la tolérance est délicate. Je l'évoquais au début de ma conférence, c'est un numéro d'équilibriste. C'est-à-dire que c'est une sorte de schizophrénie. D'un côté, je suis convaincue de ce que je crois, et de l'autre, je le relativise. Je dis « Ah mais non, mais c'est pas vrai pour tout le monde, c'est juste vrai pour moi. Bon. » Et il y a peu de chances que ça fonctionne. Reconnaissons que souvent, on dit d'un côté « Oui, chacun sa vérité. » Mais ça se termine par « enfin bon, j'ai raison », vous voyez, si on est absolument honnête. Troisième point de difficulté, il me semble que exclure les convictions religieuses, morales, esthétiques du champ de la raison, c'est aussi leur ôter un précieux garde-fou. Parce que elles reposent, du coup, sur l'expérience, sur le témoignage, c'est vrai parce que je l'ai vécu, j'ai vu, je sais trop quoi. Et vous voyez, tous les témoignages sont légitimes parce que on peut pas remettre en question ce que l'autre a vécu. Mais du coup, les fidèles n'ont pas de compte à rendre devant le tribunal de la raison. Et du coup, toutes les croyances les plus absurdes peuvent s'installer. Et le 21e siècle, le 20e siècle, eh bien, nous offre le spectacle justement du retour du religieux, mais d'un religieux justement souvent irrationnel, privé de bon sens. Et c'est ce que dit très bien Adrien Candiar, à vérité faible, esprit faible. À vérité faible, esprit faible. C'est-à-dire que c'est une vérité qui est très peu exigeante. Du coup, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et enfin, l'argument le plus décisif, et sur lequel j'aimerais insister, c'est que je crois que ce relativisme, ce subjectivisme, contrairement à ce qu'on a pu penser au XVIIe siècle, a pour conséquence d'électriser le débat. Non pas du tout de dépassionner le débat, mais de le rendre encore plus sérieux. Pourquoi ? Parce que si ma croyance, si ma foi est une affaire personnelle, subjective, elle repose sur une décision existentielle, eh bien c'est une affaire d'identité. C'est une affaire d'identité, la preuve hein, d'ailleurs, c'est que un tiers, sondage intéressant, un tiers de ceux qui se déclarent catholiques en France affirment ne pas croire en Dieu. C'est quand même un sondage intéressant, parce que du coup, non mais c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça signifie être catholique ? Ça signifie revendiquer une certaine identité, une certaine culture. C'est un marqueur, finalement, culturel. Et c'est bien ça le problème. C'est que l'appartenance religieuse est revendiquée sans forcément être attachée à une croyance et est le signe d'une quête identitaire. Et ça, ça ne favorise pas la discussion et le débat. Parce que je peux discuter de ce que je pense, mais est-ce que je peux discuter de ce que je suis ? D'ailleurs, est-ce que je l'ai vraiment choisi, ce que je suis ? Pas sûr. Et donc, vous voyez, cette conviction qui s'impose sur le mode du témoignage, sur le mode de l'expérience, de la profession de foi, eh bien, m'expose totalement dans la discussion. Et donc, rend la discussion terriblement sérieuse. La moindre objection que vous faites à l'autre, c'est pas simplement une objection rationnelle, c'est une objection à son identité, c'est une objection à ce qu'il est. Ça le blesse forcément. Vous voyez, dans le débat, ce sont des identités qui s'opposent, ce sont des styles de vie qui s'opposent, qui se blessent réciproquement. Et j'en veux pour preuve le fait que, systématiquement, la moindre critique est interprétée en termes de phobie. Vous voyez, vous critiquez, l'islam, ça devient de l'islamophobie. Et on a du mal à faire la différence entre la critique et la phobie. Pourquoi ? Eh bien, précisément, parce que la critique, on va voir, ne peut pas avoir lieu, parce que vous avez exclu ces vérités du champ rationnel. Du coup, elle se transforme systématiquement en rejet de l'autre, en rejet irrationnel de celui qui porte la conviction. Et donc, si on passe de manière insensible de la critique à la phobie, c'est que les conditions d'une discussion sereine ne sont plus présentes. Parce que la discussion est à la fois stérile. Pourquoi discuter si nous avons tous les deux raisons, tous les trois raisons ? Et la discussion devient extrêmement délicate. Comment discuter de ce que tu ne sais pas expliquer et qui t'explique et qui te justifie ? Et on discute de toi, en fait, de ce que tu es. Donc, le problème, c'est que manque l'outil commun qui nous permettrait de discuter, manque le terrain commun qui nous permettrait de discuter, qui est la raison, la rationalité. Et je crois que renoncer à la vérité, c'est ma thèse, est quelque chose de très dangereux. Et que le scepticisme nourrit une certaine forme de dogmatisme en retour. Pourquoi renoncer à la vérité, c'est quelque chose de très dangereux ? Alors c'est une idée qui est chère à Socrate et qu'on retrouve dans beaucoup de dialogues, mais qu'on retrouve dans un très beau dialogue qui est le dernier dialogue, le Phédon. Socrate est dans sa prison, il va boire la ciguë et ses amis sont autour de lui pour un dernier dialogue. Et évidemment, dans ce dernier dialogue, on parle de quoi ? Eh bien, on parle de la mort, mais aussi de la philosophie, parce que philosopher, c'est apprendre à mourir, c'est là qu'on trouvera cette phrase. Donc on parle de la mort et ses amis, ses disciples qui sont paniqués, l'interrogent sur l'âme, l'immortalité de l'âme, etc. Donc des questions, vous voyez, métaphysique, très ambitieuse, et les raisonnements s'embrouillent, etc. Et tout d'un coup, tout le monde est désespéré autour de Socrate. Ils ont brassé tous les arguments matérialistes et idéalistes. Et puis, finalement, ils ne savent pas si l'âme subsistera après la décomposition du corps. Et là, Socrate leur dit, attention, ne nourrissez pas. Vous voyez, je vous vois désespéré comme ça, et vous voyez que vos discussions n'avancent pas. Ne nourrissez pas une haine de la raison, c'est ce qu'il appelle une misologie, comme la misanthropie, on hait les hommes, dans la misologie, logos, on hait le logos. Ne nourrissez pas une haine du logos. Et d'ailleurs, il lit les deux. Comment est-ce qu'on devient misanthrope ? Comment est-ce qu'on se met à haïr les hommes ? Parce qu'on a trop fait confiance à certaines personnes qui nous ont déçus, et donc, de manière un peu générale, on conclut tous les hommes sont mauvais. Bien, c'est pareil. C'est pas parce que deux, trois raisonnements n'ont pas abouti qu'il faut se mettre à haïr les raisonnements comme le font les sceptiques. Parce que ce que leur dit Socrate, c'est que être misologue, c'est être misanthrope. C'est pas pour rien qu'il relie les deux concepts. La haine de la raison, c'est quelque part une haine de l'autre. Parce que c'est la raison qui nous relie à l'autre. C'est pas seulement la raison. Mais disons que la raison, c'est l'instrument le plus universel. Et là où la vérité s'efface, là où nous n'avons plus ce terrain commun, eh bien, qu'est-ce qui la remplace ? C'est le rapport de force. Parce que là où il n'y a plus de discours vrai, ben qu'est-ce qu'il va y avoir ? Des discours plus habiles, plus brillants, des discours plus séduisants. Donc d'autres valeurs, l'efficacité, la force, vont prendre la place laissée vacante par la vérité. Et donc, si on ne cherche plus la vérité, le dialogue nous conduira à chercher à avoir raison. Vous voyez, chercher à avoir raison et chercher la vérité, ce n'est pas la même chose. Chercher à avoir raison, c'est vraiment prendre le pouvoir sur l'autre. Avoir raison de l'autre, le briser. Chercher la vérité, c'est plus modeste, c'est justement chercher avec l'autre un bien qui nous dépasse. Voilà. Et bien Socrate fait cette leçon-là à ses disciples. C'est peut-être la haine justement de la raison qui le condamne à mort. Alors j'aimerais, pour illustrer cette idée, vous lire le très beau texte de Ferdinand Alquier dans Signification de la philosophie, l'extrait numéro 3. Et la conviction du philosophe, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut maintenir l'idée de vérité comme l'horizon de la discussion. Pourquoi ? Parce que l'appel du philosophe est appel à son semblable au nom d'une vérité qu'il croit universelle. Et c'est pourquoi la philosophie fait souvent usage du dialogue. Platon, qui est le père de la philosophie occidentale, s'exprime par dialogue. Descartes, Malebranche, Berkeley ont composé des dialogues. Or, le dialogue, c'est toujours l'appel à l'autre, comme être habité par la même raison. Il suppose toujours que deux consciences ont un fond commun. Chez Platon, Socrate demande sans cesse avant de poursuivre l'assentiment de son interlocuteur. Chez Berkeley, Philonous suppose toujours qu'Hylas, auquel il s'adresse, bien que leur point de départ soit tout à fait différent, possède un esprit identique au sien. Et le critère suprême n'est pas alors une preuve discursive, ni une synthèse dialectique, c'est l'accord de l'autre conscience. Philonous dit à Hylas, vous croyez sans trop réfléchir sans doute au sens des mots que vous employez, qu'il existe une matière, soit, mais qu'entendez-vous par là ? Et à chaque fois qu'Hylas donne à cette question telle ou telle réponse, Philonous reprend. Mais ne voyez-vous pas que ce que vous appelez matière est encore une idée de votre esprit ? Bon, là on est dans le débat hein, sur le matérialisme. Ce dont Hylas finit par convenir. Il y a donc en cela égalité des consciences, similitude des pensées. Et c'est pourquoi la philosophie nous dirige vers cette république des esprits à laquelle Spinoza, tout aussi bien que Kant, aspire. Voilà. Pour que le dialogue soit possible, eh bien, il faut partager deux choses, un outil commun, la raison, et un horizon commun, la vérité. Et vous voyez, misanthropie et misologie, je crois, sont structurellement liées. Voilà. Et c'est pour ça que, pour conclure, j'aimerais dessiner les contours peut-être d'un autre modèle de la tolérance. Justement, qui rende possible la discussion et la polémique. Mais je crois que il y a deux conditions à cela. La première condition, c'est d'accepter de prétendre à la vérité et pas seulement à ma vérité. Ça peut paraître extrêmement présomptueux, mais je vais vous expliquer que ce n'est absolument pas le cas. Oser affirmer que c'est bien la vérité qui est engagée dans chacune de mes convictions et pas seulement ma vérité. Ça suppose que j'accepte de justifier ces convictions sur le terrain commun de la rationalité, terrain que je partage avec l'autre. Donc ça suppose qu'il n'y ait qu'un sens pour moi au mot vérité, un sens fort. Et du coup, c'est quoi la vérité ? C'est le sens le plus commun. C'est ce qui est conforme au réel. C'est ça la définition de la vérité. Ce est vrai, ce qui correspond à ce qui est. D'accord ? Est faux, c'est la définition que donne Aristote, puis saint Thomas, l'adéquation entre l'esprit et la chose. D'accord ? Celui qui ment, c'est celui qui dit ce qui n'est pas arrivé. D'accord ? Celui qui se trompe, celui, justement, l'erreur, errare, c'est errer. Hein ? On dit autre chose que ce qui s'est passé. Voilà. Bon, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que c'est accepter de tenir pour vrai, par exemple, la résurrection du Christ. C'est penser qu'il est réellement ressuscité. Et pas seulement qu'il est ressuscité pour moi ou pour deux, trois personnes. Ou, alors, évidemment, dire le Christ est ressuscité pour moi, il est ressuscité dans l'esprit des gens, etc., c'est plus simple. C'est clair que c'est plus simple, c'est moins difficile à croire. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez répondre à celui qui vous dit « Le Christ est ressuscité dans mon cœur ?» Pas tant mieux. Mais du coup, la résurrection, vous voyez, est une vérité tellement faible, tellement subjective, qu'elle n'a aucun intérêt. Accepter, vous voyez, ben, ce sens fort de la vérité comme adéquation à la réalité, c'est penser que ben, la résurrection est un fait historique. Alors, je ne dis pas que c'est un fait historique qui a testé, hein, mais dont on peut discuter, et dont le débat, c'est ben, comment penser que ce fait surnaturel n'est pas simplement convaincu de trois illuminés, mais se soit répandu tout autour du bassin méditerranéen. Voilà, comment expliquer ça historiquement ? Bon. Donc ça, c'est la première idée, accepter que ce que je pense être vrai, eh bien, soit vrai pas seulement pour moi, mais en soi. Alors, ça peut paraître présomptueux, mais en réalité, cette audace nous rend très vulnérables, parce qu'elle suppose que j'accepte de jeter en pâture mes convictions dans l'espace public. Elle suppose que j'accepte d'en rendre raison. Et c'est ça, être ouvert d'esprit. Être ouvert d'esprit, c'est pas avoir des convictions molles et laisser subsister toutes les convictions des uns et des autres, mais que c'est accepter les règles de la discussion commune. Et les règles, et celui qui est ouvert d'esprit, c'est celui qui suppose que ses convictions pourraient être partagées. Donc, que ses convictions sont potentiellement universelles. Voilà, donc il accepte cet instrument commun qu'est la raison. Alors, j'aime beaucoup l'image que Voltaire donne dans ses lettres philosophiques, dans sa sixième lettre. Voltaire est fasciné par les Anglais, qui évidemment réussissent toujours tout mieux que nous, la révolution mieux que nous, réussissent ici à faire coexister des communautés religieuses différentes mieux que nous. Et il utilise une image qui est intéressante. Il dit, alors je vous lis le texte, c'est très clair, « Entrez dans la Bourse de Londres. Cette place plus respectable que bien des cours, vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, là, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion. Et ne donnent le nom d'infidèle qu'à ceux qui font banqueroute. Là, le presbytérien se fie à l'anabaptiste. Et l'anglican reçoit la promesse du quaker. Au sortir de ces pacifiques... » Alors, vous voyez, à la bourse londonienne, pas de problème, on a beau être d'avoir des convictions différentes, on échange parce qu'on a un intérêt, certes, qui n'est pas vraiment commun, mais concerté. Il y a des règles du marché qu'on accepte, pas de problème. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire. Celui-ci va se faire baptiser dans une cuve au nom du Père, par le Fils, au Saint-Esprit. Celui-là fait couper le prépuce de son fils et fait marmotter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point. Ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête, et tous sont contents. Donc vous voyez, c'est intéressant. Dans le monde économique qui nous rassemble, on partage un intérêt commun qui est l'intérêt économique. Alors là, on retrouve un peu Montesquieu, c'est-à-dire que le commerce, c'est ce qui réunit les hommes, c'est ce qui pacifie les relations, c'est ce qui nous évite de faire la guerre. Et puis, au sortir de la bourse, alors là, c'est comme Locke, on rentre chez soi, mouvement centrifuge, on rentre dans le privé, et là, chacun vit ses croyances comme bon lui semble. Et bien moi, je me demande si on ne pourrait pas faire une sorte de bourse des religions. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas créer les conditions, justement, d'un échange entre les convictions, entre les croyances, identique à celui de la bourse londonienne. Donc, je ne suis pas d'accord avec Voltaire, vous voyez. Voltaire, lui, est tout content de ce repli des croyances dans l'espace privé. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que, justement, il y a quelque chose de dangereux. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser les conditions d'une discussion entre nos convictions. Alors là, je m'inspire très librement d'un penseur allemand qui s'appelle Habermas, qui a justement travaillé toute sa vie sur cette idée d'une éthique de la discussion. Quelles règles une discussion rationnelle doit-elle respecter ? Eh bien, je conclue rapidement sur cette idée que, pour moi, il me semble qu'il y a 4 règles. La première règle, c'est que chacun doit faire l'effort d'être audible et compréhensible, c'est-à-dire de rendre raison de ce qu'il dit. Et il ne peut pas simplement dire « c'est vrai parce que je le crois, c'est vrai parce que j'ai une illumination, c'est vrai parce que tout un tas de raisons infrarationnelles ». Justement, de cela, le fanatique est incapable. Et il devient vite violent parce qu'il ne trouve pas, de quoi justifier son propos. Donc être audible, être compréhensible, rendre raison de ce que l'on dit. Et accepter de comprendre l'autre. Respecter l'autre, c'est pas simplement ne pas le tuer et le laisser exister, mais c'est faire l'effort de s'immerger dans sa croyance et de le comprendre. Mais alors voyez, ces deux premiers points supposent une culture, une formation. Et alors justement, Adrien Candiar, dans la fin de son texte, je vais pas lire l'extrait, je voulais photocopier, justement montre qu'en France, là encore, les Anglais sont meilleurs que nous, on est très mauvais pour ça. Parce que on a une conception très étroite de la laïcité qui exclut du champ, de l'espace public la moindre trace de la religion, qui peut se manifester d'ailleurs que par des signes identitaires. Vous voyez, la nourriture, les crèches à Noël. Mais ce n'est pas ça la place que devrait occuper la religion dans l'espace public. Elle devrait se manifester dans les colonnes des journaux. Il devrait y avoir une colonne, je ne sais pas, dans Le Monde théologie, où là, on pourrait trouver des arguments. Voyez. Il devrait y avoir, dit-il, comme en Angleterre, comme à Oxford, eh bien, à l'université, un département théologie, parce que c'est une science que l'on peut étudier. Il dit la chose suivante, j'aime pas le foot, mais pourtant quand j'allume ma télévision, je sais repérer un hors-jeu, je sais comprendre les règles d'un match de foot. Bon, eh bien pourquoi s'interdit-on cet accès-là au monde justement de la foi? On se rend inaccessible toute une partie du réel. Et d'ailleurs, l'athée n'a même pas à expliciter sa propre position, puisque c'est la position légitime, ce qui est discutable, dit Adrien Candiar. Donc ça suppose une formation, une culture. Et ça suppose que la question de Dieu est une question qui devrait intéresser tout le monde. Et en philosophie, c'est amusant. C'est quand même troublant de se rendre compte que la question de Dieu qui était au programme des classes de terminale a disparu. Comme la question de la mort. Disparu. Voilà. Alors on a l'inconscient, ça, voilà, Freud c'était pas un philosophe, mais en revanche, il a sa, sa notion représentée. Et les deux dernières règles, je crois que c'est accepter de rentrer dans la discussion en imaginant qu'on puisse changer d'avis, qu'on puisse être contredit. Et c'est vrai que, par exemple, je ne fais jamais cet effort-là quand je rencontre un témoin de Jéhovah. Je ne commence pas la discussion parce que je sais en fait que ça ne changera rien à ce que je pense. Et je crois que pour qu'une discussion soit possible, bah, faut accepter une part de doute, mais pas un doute sceptique. Vous voyez, où on ne croit pas en la vérité, mais une sorte de doute méthodique, un peu comme Descartes, provisoire, que oui, peut-être, l'autre va me libérer de certaines de mes erreurs. Voilà. Nous nous limons la cervelle en la frottant à celle de l'autre, dit Alain très justement. Et dernier point, ne pas chercher nécessairement le consensus. Je crois que la grande erreur, il y a une sorte de totalitarisme du consensus. Il faudrait être d'accord. Je crois qu'on entretient de fausses analogies, de fausses symétries entre les religions qui créent de la confusion plus qu'autre chose. Le dialogue gagne parfois à nous faire progresser justement dans l'examen de nos différences, dans ce qui nous pointer correctement un désaccord, c'est avancer vers la vérité, que d'entretenir, voyez, une sorte de consensus mou. Voilà. Donc, j'appelle de mes voeux, vous voyez, un peu à la manière de Voltaire, cet espace de discussion entre les convictions, mais ça suppose, vous voyez, un geste théorique fort, qui est de réintégrer les croyances, qu'elles soient morales, qu'elles soient religieuses, dans l'espace de la rationalité, et de ne pas entretenir une frontière étanche entre la raison et la foi. À partir du moment où vous entretenez une frontière étanche entre les deux, eh bien, vous abandonnez la foi à elle-même et elle n'a plus les moyens de se justifier, de rencontrer l'autre. Donc pour moi, la tolérance, voyez, ça n'est pas le silence poli devant les convictions de l'autre. C'est généralement, c'est plus facile. C'est pas le fait de se résigner à voir coexister comme ça des humanités incapables de communiquer sur l'essentiel. Je ne crois pas que ça soit le propre des esprits faibles, des esprits modérés, mais au contraire, des esprits radicaux. Vous voyez, ce terme radical, là, il n'est plus du tout à la mode, il est décrié. Mais pourtant, si on revient à son étymologie, radical, ça signifie revenir à la racine. Donc c'est un mot qui est noble, radical. Et si nous savions être radicaux, justement, dans nos convictions, eh bien, nous saurions remonter à leurs racines et comprendre les raisons des convictions qui nous habitent, et donc nous serions capables justement d'en débattre avec les autres. Ce que je vous propose comme modèle de tolérance.